Bonjour Patrice Wallet, consultant en développement commercial.
Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information.
Bonjour, c'est RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise.
Bonjour et bienvenue sur RLP Business numéro 26, en direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers à Périgueux, avec Patrice et Stéphane, RLP Business, l'émission sur le business, le management, le commercial, l'économie, en Périgord et ailleurs. Patrice, bonjour.
Tu vas bonjour bien à vous tous, très bien, merci.
Tu as passé une bonne semaine?
Parfait, et puis en plus on a le soleil, aujourd'hui sur Colonie on est vénard quand même. Hein.
Oui, mais il fait froid, on a relancé le chauffage encore. Hein.
Oh, cette saison, on va pas commencer à se plaindre.
Non. Les économies d'énergie sera pour plus tard, d'accord. Et aujourd'hui, nous avons un invité avec Monsieur Papon, directeur de l'IPRU de Boulazac. Monsieur Papon, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci.
Bon, on est très heureux de vous recevoir. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler, effectivement, qu'est-ce que l'IPRU, la coopérative, la grande distribution, hier et aujourd'hui. Ça va être extrêmement intéressant. Ne partez pas, ne nous quittez pas. C'est juste après ça, après la chronique du jour.
Les actualités.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Elon Musk. Personne n'a payé autant d'impôts que lui, plus de 11 milliards, alors qu'il aurait pu ne pas les payer. Je le trouve d'ailleurs très sympathique, surtout depuis qu'il envoie des voitures décapotables dans l'espace. Hein. C'est alors Elon Musk, c'est Tesla, Starlink, SpaceX, Neuralink, Hyperloop, SolarCity, xAI. Alors pour rappel, c'est le créateur de PayPal. Il avait fait X.com, qu'il avait codé lui-même, c'était son grand projet d'adolescent. Et il avait fusionné avec un partenaire pour créer PayPal, et il s'est fait éjecter durant ses vacances. Donc il paraît que c'est comme ça qu'on apprend. Et X, aujourd'hui, il a repris le nom pour en nommer Twitter. Twitter n'appelle plus Twitter, il s'appelle X. Et ce n'est pas par hasard, parce que Elon Musk, disons-le, c'est aussi Starlink. Starlink, c'est aujourd'hui 5000 satellites lancés par SpaceX, son projet de fusée qui concurrence la NASA, d'ailleurs, où il envoie des satellites dans l'espace, avec le projet d'en déployer 12 000, voire 42 000. Il y a déjà actuellement plus de 10 000 abonnés en France. Ça coûte aujourd'hui 300 euros de matériel, avec une antenne grosse comme un smartphone, enfin une tablette d'Android, un abonnement de quelques dizaines d'euros, et on peut se connecter en court-circuitant les opérateurs, les gouvernements, la fibre qu'on vous a promise qui n'est jamais arrivée à la campagne où vous étiez, tout ça en mettant des petits panneaux solaires de SolarCity sur le toit de votre maison. SolarCity qui permet aux USA et non pas en Europe d'atteindre l'autonomie énergétique pour se déconnecter du réseau électrique traditionnel. Donc vous faites tout en vous-même. Vous pouvez utiliser la connexion satellite pour faire de la téléphonie, pareil, en court-circuitant les gouvernements, les systèmes de surveillance, SFR et tout le monde, et le tout depuis votre voiture. Tesla, aussi à Elon Musk, qui bien sûr sera relié à tout ce qui est dit précédemment, dont on envisage une autonomie de 1000 km à terme et qu'on pourra donc charger chez vous ou chez les amis. En même temps, Twitter est en train de devenir une plateforme globale avec beaucoup de contenu, un processeur de paiement, il nous refait son système de paiement PayPal, les appels vocaux à la Skype et qui pourrait devenir un système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il pourrait faire, et il en parle, une tablette avec dessus le système X, Twitter, téléphonie, télévision et autres intégrés dans la tablette, et il a sorti cette semaine, ce qui a provoqué beaucoup de remous, son intelligence artificielle qui s'appelle Grok, en disant Grok deviendra un verbe qui, parce que oui, au départ, est OpenAI, ChatGPT, c'était lui, c'était Musk, qui en était parti pour des raisons de divergence idéologique, aujourd'hui il fait la sienne, qui a un immense avantage par rapport à ses concurrents, c'est qu'elle a accès à Twitter en temps réel. Alors, court-circuiter les États, les régulations, assembler des dominos pour se placer en situation de monopole, n'est-ce pas la manière ultime de faire du business? Parlez-vous là, ici, dans le studio. Qu'est-ce que vous en pensez d'Elon Musk, de ces sociétés qui ont maintenant parfois plus de poids et de pouvoir qu'un pays traditionnel?
On peut en penser tout et son contraire. Il n'en est pas moins qui nous fait une démonstration précise qu'un capital privé peut devenir beaucoup plus réactif et beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide que des États en tant que tels. Ouais. Il a fait, quand on regarde un peu ce qu'il a fait dans le spatial, en quelques années, il a complètement dépassé les États-Unis, il a dépasser
l'URSS. Les meilleurs qu'Ariane, il est meilleur
que
la NASA.
On peut dire qu'un privé peut aller beaucoup plus vite qu'un collectif, mais à l'inverse, de donner autant de poids et de pouvoir sur une seule tête. Moi, la question que je me pose toujours, demain, il clame, comme tout le monde, hein, de toute façon, il y passera tous. Que devient son empire?
À qui ça va? Conseil d'administration.
Ouais, enfin, conseil d'administration, ça va être. Enfin, c'est toujours des grandes questions, ça tient sur une tête.
Le problème, c'est comme les banques en ligne au départ, si tu veux. C'est-à-dire que ils prennent tout le monde, ils acceptent tout parce qu'au départ, ils ont besoin des gens. Et une fois qu'ils sont en situation de monopole, ils imposent leurs règles. Et là, c'est différent, c'est très très différent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Papon ? Ça fait des produits en plus à vendre à venir ou...
Moi, je répondrai à Patrice. Oui, un petit hypermarché de Dordogne. C'est sûr qu'à côté des Lions de Musk, il y a une petite différence, une petite marge. Moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est le monopole. Après, le souci, c'est qu'on se rend compte mondialement, on n'arrive pas à avoir d'accord entre les États. On le voit bien, malheureusement l'Ukraine, malheureusement Israël et la bande de Gaza. Qu'une personne puisse avoir le monopole sur des sujets aussi importants, pour moi, ça me pose problème.
Dangereux quand même.
Et c'est dangereux, voilà. Ouais. Exactement.
Tout à fait. Très bien. Eh bien, on enchaîne. Ne bougez pas, c'est juste après ça.
L'invité de la semaine.
Monsieur Papon, Fabien Papon est parmi nous à RLP 102.3 aujourd'hui. Monsieur Papon, vous êtes le directeur de l'Hyper-U, anciennement, non, d'ailleurs toujours coopérative de Saintes de Boulazac, l'hypermarché de Boulazac. Merci d'être avec nous. Je vais aller directement dans le vif du sujet. Coopérative, moi, je sais ce que c'est, mais pas tant que ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ?
Oui, alors tout d'abord, merci pour l'invitation, étant une première pour moi. Donc, le coopérative, oui, notre coopérative, nous sommes une coopérative de consommateurs. Notre siège est basé à Saintes, c'est-à-dire que chaque client qui prend une part sociale de l'entreprise, de la coopérative, qui revient à 7 euros, est sociétaire à vie de notre coopérative. Donc, il a le pouvoir de décision lors des assemblées de ce qui se fait dans notre coopérative. Et qui plus est, il peut avoir des avantages, que ce soit avantages financiers avec des remises dans le magasin ou des avantages avec des partenaires. Exemple, j'ai un contrôle technique à faire sur ma voiture, et bien sur le parking, le contrôle technique est partenaire de notre coopérative et donc il aura une remise supplémentaire.
Donc ça veut dire que le consommateur qui vient faire ses courses chez vous, à Boulazac, il fait ses courses comme dans tout hypermarché, on s'entend bien avec son caddie, sa carte bleue, mais en plus il y a un petit bout de l'hypermarché qui lui appartient quelque part.
Tout à fait, il a un pouvoir lors des assemblées de décision à voter les résolutions qui sont présentées ou à ne pas les voter s'il est en désaccord avec les décisions prises par la direction.
Alors c'est quand même un format de société qui est bien particulier, la coopérative. Alors c'est vieux, hein, la coopérative, il y a des coopératives dans différents secteurs d'activité. Il y a une autre coopérative d'ailleurs sur Périgueux qui est grosse, qui est nationale, que peu de Périgourdins d'ailleurs connaissent, c'est la coopérative des coiffeurs sur Boulazac, coopéré. Et vous êtes une coopérative dans la distribution, dans la grande distribution. Vous êtes les seuls d'ailleurs dans ce format-là.
Tout à fait, ouais.
Et 50 ans, je crois, j'ai cru entendre qu'il y avait une petite fête qui se préparait.
Tout à fait, oui. On va fêter les 50 ans du magasin. Donc c'est une vieille dame, une vieille enseigne de Dordogne. Et je crois qu'on était le premier hypermarché avec une galerie marchande et une cafétéria. Donc les Périgourdins, jeunes retraités, on va dire, ont pu venir en magasin avec leurs parents à l'époque faire leurs courses. La sortie du samedi, mais on en parlera un peu tout à l'heure sur l'évolution du commerce.
Bien sûr.
Mais
bien
voilà,
sûr.
Donc c'est une longue histoire en Périgord.
Oui, c'est vrai que Auchan et Trélissac, Leclerc, pour les citer, de toute façon, vous êtes que trois sur Périgueux, et sont venus bien après l'hyper-U de Boulazac, les Côtes de Saintes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du modèle de la grande distribution par rapport à son évolution ?
Mais le modèle de grande distribution, déjà, c'est un métier où on est en permanence en veille, c'est-à-dire que ça évolue tous les jours. On ne peut pas rester figé sur des concepts qui ont pu fonctionner, comme on disait, il y a 50 ans, où la famille venait avec ses enfants, déjeunait à la cafétéria et après faisait ses courses dans le magasin, qui flânait quasiment toute l'après-midi. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le modèle évolue avec des clients qui cherchent de la rapidité. C'est-à-dire que venir faire ses courses, eh bien, c'est plus un moment de plaisir. Donc, par contre, il faut qu'on mange. Ça, c'est inévitable. Mais donc, du coup, on essaie de répondre à ces clients-là, alors sous différentes façons. Hein. Le parcours client le plus raccourci possible pour que les clients aillent chercher directement les produits qu'ils recherchent. Et puis, ce qui s'est mis en place depuis quelques années et qui a énormément évolué depuis la Covid, la partie drive, qui aujourd'hui est en pleine progression, qui progresse plutôt à deux chiffres. Et de là, s'en découle la livraison aussi à domicile, enfin voilà quoi.
Donc vous êtes présent comme vos concurrents, hein, aussi bien sûr dans vos magasins, hein, que sur le net, par l'intermédiaire du drive. Qu'est-ce qu'on peut dire à au jeu ? Oui, parce que l'air de rien, comme vous le dites très bien, la grande distribution, c'est un passage obligatoire. Il faut bien se nourrir, il faut acheter tout ce dont on a besoin. Le modèle s'est imposé il y a maintenant plus de 50 ans. Vous avez toute la génération, en fin de compte, dans votre magasin, quoi.
Alors, tout à fait. Nous étions en magasin, il y a quelques années, plutôt pour des jeunes retraités, je dirais. Voilà l'image qu'avait un peu le magasin. Nous avons réussi à la rajeunir. Donc, nous avons toute génération. On voit des petits jeunes qui sont à la CCI, à côté, ou autres, qui viennent faire leurs petits achats en midi et deux ou le soir quand ils sont internes, jusque toujours à nos fidèles retraités et coopérateurs qu'on salue tous les matins. Donc voilà, on touche à peu près toutes les populations et bien c'est un vrai plaisir de pouvoir servir la population.
Alors est-ce qu'on peut dire, alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein, est-ce qu'on peut dire que le modèle de la grande distribution est fini quand on met en parallèle bien sûr le Internet, la jeune génération qui vit sur Internet, qui commence sur Internet, est-ce que vous pensez que ces grands magasins, on les retrouvera encore dans 10 ans ?
Le grand magasin aura très certainement un peu plus de mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des charges. Plus le magasin est grand, plus il a de charges. Donc évidemment, il faut arriver à compenser ces charges-là. Maintenant, le modèle de la grande distribution ne changera pas. Quand on a parlé de la Covid, qu'il fallait faire travailler les fournisseurs locaux, les petits magasins, ainsi de suite, demain, un magasin qui fait 200 mètres carrés, je ne vois pas comment il peut fournir 13 000 clients ou 15 000 clients à la semaine.
Oui, c'est clair.
Le modèle, je vois pas trop comment on peut faire. Donc, il existera automatiquement toujours des magasins pouvant réunir, comme nous, on va avoir à peu près 30 000 produits, 30 000 références, pour pouvoir servir les clients de notre zone de chalandise.
Oui, puis n'oublions pas que de toute façon, le modèle de commerce qu'a amené la grande distribution, c'est que le consommateur était prêt à l'accepter et qu'aujourd'hui, il l'impose, le consommateur. Le consommateur, il a envie de faire ses achats dans un même espace où il puisse trouver tous ses besoins, que ce soit alimentaire, vestimentaire, loisirs, culture. C'est un modèle qui a aujourd'hui est imposé, on peut dire.
Alors, imposé, je ne sais pas. Moi, je vous dirais que j'adore les marchés. Je vous dirais que faire mes achats toute la semaine à Hyper U, évidemment, et profiter du dimanche matin d'aller au marché, de m'acheter de belles clémentines et peut-être le poulet du dimanche ou autre, je pense que c'est complémentaire. C'est complètement complémentaire. Bien au contraire.
C'est ce qu'on appelle en marketing la démarche multicanal, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le consommateur, il aime bien être sur Internet, je parle surtout des jeunes, hein, de surfer sur Internet, peut-être aussi de prendre des renseignements sur Internet, acheter certaines choses aussi, bien sûr, en direct, mais il a besoin aussi de voir aussi d'autres produits, d'avoir un avis aussi, de voir aussi des produits concurrentiels, parce que c'est quand même l'intérêt des grandes surfaces de se dire, bon, quand on est dans un rayon, on a du choix.
Alors, tout à fait. Il y a la partie quand même non alimentaire, parce que ce que vous disiez par rapport à Internet, la partie non alimentaire, c'est-à-dire une télé, une machine à laver ou autre, oui, là, le client va regarder sur Internet, voire même se renseigner, voire commander même le produit directement sur Internet, évidemment. Mais on ne change pas de télé tous les jours non plus.
Ouais.
On n'en a pas acheté une forcément pour la Coupe du Monde de rugby, et on n'en achètera peut-être pas une pour l'Euro de foot ou autre. Par contre, ce qu'on disait tout à l'heure, notre vocation quand même première, elle est alimentaire. Donc automatiquement, mais toutes les semaines, on vient réalimenter. Le modèle Internet pour commander ses courses, je pense qu'on l'a quand même développé avec le drive, où la personne de chez elle maîtrise son budget, fait ses achats, maîtrise son budget. Quand elle valide son panier, elle sait pas combien elle en a. Elle sait à quelle heure elle va retirer ses courses. Elle charge son coffre et elle s'en va.
Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est de voir les consommateurs. Vous parliez des marchés, hein, le week-end. Moi aussi, j'aime bien faire les marchés le week-end. Mais j'aime bien observer aussi les consommateurs dans les magasins, là où je vais, comme tous les Français. Et de voir que dans un rayon, par exemple, poireaux, j'ai envie d'une boîte de poireaux, le temps qu'on peut passer à hésiter entre je prends ceux-là, ceux de droite, ceux de gauche. Ah, ceux-là, ils sont moches. Oui, mais ils sont moins chers.
Ah, c'est humain, ça.
Et c'est humain. Et ça fait partie de la consommation et ça fait partie du client de pouvoir comparer, de pouvoir regarder, de se dire, mais en fin de compte, est-ce que j'ai envie d'un avocat qui est 2-3 fois plus cher que celui d'à côté ? Et c'est là aussi le grand intérêt de la grande distribution, c'est d'apporter ce choix qu'on a bien évidemment beaucoup moins sur du commerce traditionnel et pas du tout, par contre, sur Internet, si on parle de produits frais, parce que bon, les photos sont toujours belles hein, sur Internet.
C'est rare. La grande distribution s'adapte. On parlait du marché, on peut parler du bio, mais le marché rentre dans la grande distribution, le bio rentre dans la grande distribution. Quelque part, la grande distribution, c'est un canal de distribution, c'est tout. C'est plus ou moins qu'une façon de répondre à la demande. La distribution s'évolue.
Je me posais la question, M. Papon, dans ce qu'on appelle les circuits courts. Hein, c'est à la mode, c'est tendance, c'est très bien de pouvoir faire travailler les producteurs locaux. Vous le faites d'ailleurs à Hyper-U ?
Alors énormément. On va travailler notamment en boucherie, par exemple, sur de la viande limousine élevée à Thiviers. Un producteur, toutes les vaches qui arrivent au rayon traditionnel, elles viennent toutes de Thiviers, d'un éleveur qu'on connaît, qui vient régulièrement en magasin, qu'on va visiter. Évidemment qu'on essaie d'avoir du canard du Périgord quand il n'y a pas de grippe ou autre, quand il n'y a pas de soucis. Le miel, c'est du miel du Périgord. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut travailler en locaux, premièrement, il y a deux choses. On fait travailler nos fournisseurs locaux, donc on leur ramène une certaine richesse à leur acheter leurs produits. Donc, ça, c'est tout bon pour l'économie et pour nous aussi, parce qu'en retour, il fait peut-être travailler du personnel qui vient faire les cours chez nous. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, on peut avoir une petite vocation quand même, même si j'aime pas trop ce terme, mais écologique. Si on peut avoir du canard à 10 km du magasin, c'est mieux que d'aller le chercher au fin fond de la Bulgarie, quand même.
Alors ça, vous prêchez un convaincu.
Bon, il me semble que c'est plus logique.
Donc, on peut dire que la production locale se retrouve aussi dans les étals de la grande distribution. Comment vous le voyez, le consommateur d'aujourd'hui ? Il ressemble à quoi, le consommateur d'aujourd'hui ?
Il y en a plusieurs. Malheureusement, on vit des périodes à 2 euros le litre d'essence et j'en passe sur l'électricité, enfin les charges de tous les foyers et de toutes les entreprises qui ont flambé. Donc vous avez le consommateur qui a baissé un peu de gamme par rapport aux produits qu'il a acheté habituellement.
Par rapport à son pouvoir d'achat.
Par rapport à son pouvoir d'achat, totalement. Et puis vous avez une tranche de clients qui ont encore l'envie de se faire plaisir. Donc justement, ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont acheter une belle entrecôte pour le week-end parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Et voilà, donc il y a plusieurs... on doit servir en fait plusieurs types de clients.
On retrouve en fin de compte tous les profils de consommateurs.
Tout à fait. Hein. Même si on sent quand même... que dans un caddie, il y a un grand pourcentage de produits qui ont baissé en gamme. Surtout des produits basiques, liquide de vaisselle, l'huile. Voilà, mais pourquoi pas prendre du premier prix au lieu de prendre celle que je prenais qui est 40 centimes ou 50 centimes plus chère.
Oui, parce qu'en réalité, on ne se fait pas plaisir avec une bouteille de lessive entre nous. Hein.
Tout à fait.
Et si on a des économies à faire, autant les faire sur la bouteille de lessive.
Tout à fait.
Et d'essayer peut-être de s'acheter en revanche une viande de qualité qu'on apprécie ou un produit, pour qu'on puisse avoir plaisir à le consommer.
Tout à fait.
D'ailleurs, j'étais surpris, j'ai écouté une émission il y a quelques jours de ça, de notre producteur de foie gras à Neuvik. Neuvik ou sinon, je confonds toujours. Non, c'est à Neuvik, qui commençait à vendre du foie gras, du caviar, excusez-moi, je parle
oui,
de caviar.
De l'esturgeon.
C'est ça.
Et qui commençait à vendre du caviar en grande distribution. Alors, je ne sais pas s'il se retrouve chez vous encore,
si,
mais...
Si.
Ah, d'accord.
Ça fait un petit moment. Déjà, ouais.
Donc, on touche à des produits de luxe, hein, qui sont classés en produits de luxe, hein, et on les retrouve en grande distribution.
Tout à fait, ouais. Oui.
Donc, on a les trois offres qu'on retrouve en école de commerce. L'entrée moyenne, le premier prix et l'offre élevée.
Mmh.
D'accord.
Tout à fait.
Si on parle un peu de prix, alors on ne va pas rentrer dans des confidences, hein, mais on est quand même dans une époque où le prix casse les pieds à tous les consommateurs. Mais c'est pas le prix, c'est l'inflation à aujourd'hui qui a fait augmenter tous les prix de la consommation. Comment vous traversez cette problématique d'inflation ? Vous avez aussi, bien sûr, le même problème que les foyers français, l'énergie. J'imagine que vous en consommez un peu des kilowatts, vous. Comment vous arrivez à traverser ça ?
Alors, il y a deux questions, en fait. Sur la partie hausse des tarifs, oui, il y a eu des hausses de tarifs. Est-ce que c'est fini ? Non. Est-ce que c'est justifié ? Ça dépend. Donc avec tout ça, j'ai bien répondu. Non, ça dépend pourquoi. Parce qu'il y a des hausses qui vont être justifiées. Quand vous avez l'électricité, comme on en discutait, on a eu l'occasion d'en discuter, qui a fait x2,2.
Sur quel budget? Rappelez-nous votre budget en électricité.
Un peu plus de 200 000 euros.
200 000 euros, code d'électricité.
Donc voilà, quand vous avez ça face à vous, et ça, il va falloir la payer. Donc maintenant, mais comment on fait pour la payer? Ce que je veux dire, c'est qu'une entreprise lambda, un boulanger en ville, un artisan qui fait du canard, il a des machines qui fonctionnent avec de l'électricité, voire du gaz qui avait encore plus flambé. Donc lui, dans son prix de revient, il est obligé de l'intégrer.
Bien sûr.
Mais celui-là qui fabrique l'emballage, mais lui aussi, l'électricité est augmentée. Donc il augmente aussi le prix de l'emballage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc nous, au final... Et ce qui est très bien, on parlait tout à l'heure de monopole, ce que nous, on n'a pas, on a une concurrence avec plutôt acerbée sur Périgueux quand même, on est assez nombreux. Donc, mais c'est profitable aux clients. C'est-à-dire que derrière, nous, on ne dit pas, tiens, il a augmenté de 20%, eh bien, on va augmenter de 20% ou 25%. Non, non, on va reprendre un par un pour voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire. Et des fois, on n'est pas d'accord avec certains fournisseurs. On dit, écoute, il faut que tu représentes ta copie. Ben là, moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à travailler sereinement ensemble. Voilà. Donc, il y a toute une démarche. Et sur la partie, qu'est-ce qu'on a fait, nous, sur la partie notamment électrique, eh bien, on a créé un parking en photovoltaïque, des ombrières photovoltaïques.
Qu'on a mis ça, c'est bien, ça. Voilà.
Qu'on a mis en place et qui sont en service depuis le mois d'avril. On va laisser passer le temps. Sur l'été, ça a bien fonctionné. On a eu un été magnifique, même s'il a manqué d'eau, mais on a eu un été magnifique. Donc là, ils ont produit au maximum. Et cette électricité, on s'en sert exclusivement pour le magasin.
D'accord.
On a fermé nos vitrines frais, donc elles ont toutes des portes. Donc ce qui permet de consommer encore moins d'électricité. On a investi dans nos réserves avec des capteurs, des cellules, et ainsi de suite, pour limiter aussi. On en est même allé au point où on rechargeait les transpalettes qu'au moment où il y avait du soleil à l'extérieur, avec un programmateur qui venait recharger nos transpalettes. Donc on est allé à la plus petite économie possible, et on se bat avec les collaborateurs justement pour économiser nos ressources, quoi. Parce que le premier euro qu'on va gagner, c'est celui qu'on aura économisé. Donc voilà, mais en fait, on essaie de gérer comme un bon père de famille, on va dire, entre guillemets,
oui,
notre magasin.
Je retiens, vous l'avez dit, ça paraît une évidence quand on le dit, mais on ne le dit peut-être pas assez. Vous êtes vraiment dans un secteur de concurrence, hein, la grande distribution. On peut regarder sur notre petite ville de Périgueux. Hein, on est combien sur Périgueux, combien d'habitants? 30 000
ouais.
Hein, grosso modo, quoi. On est 30 000 habitants, on a quand même 3 hyper. Quoi, hein.
3 hyper et un nombre de super.
Et de super, et des supermarchés. Donc on peut dire quand même que là, la concurrence, elle existe, hein, on ne peut pas la nier. Et vous n'êtes pas tous des mêmes familles, hein, donc c'est bien de la vraie concurrence, mm-hmm. C'est pas de la fausse concurrence. Donc la guerre des prix, vous savez ce que c'est que la guerre des prix. Tiens, en parlant de concurrence, et je pensais à un sujet que tous les chefs d'entreprise on a tous sur la table, le recrutement. Comment vous faites pour trouver des collaborateurs? Parce que personne n'en trouve. Comment ça fonctionne?
Avant de chercher des collaborateurs, on essaie de conserver ce qu'on a.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est déjà la première des choses.
C'est bien.
Donc, on essaie de mettre plein de petites choses en place.
Est-ce que vos collaborateurs sont associés comme dans une coopérative?
Tout à fait.
Ah!
Bravo.
C'est intéressant.
Tout à fait. On a discuté avec Patrice, hors antenne. Aujourd'hui, un collaborateur chez nous, quand l'année est clôturée, on va toucher un intéressement, si on a fait un peu de résultats, évidemment. Que ce soit un collaborateur magasin ou moi-même, nous toucherons exactement le même intéressement, à la virgule près.
Quel que soit le salaire?
Quel que soit le salaire.
Vous avez vu mis en place l'annualisation et l'intéressement?
L'annualisation est en place depuis quelques années à la COP Atlantique. Donc, un 35 heures doit faire 1600 heures. Et l'intéressement, et il y a même une prime magasin sur différents petits critères. Voilà. Et la prime sera identique aussi.
D'accord.
Pour les collaborateurs.
Ouais. Alors, on peut en parler. Vous n'avez pas une image extraordinaire en termes de métier, hein, pour vos employés. On a toujours entendu dire l'hypermarché. Putain, c'est dur. Faut se lever tôt. Faut mettre en rayon. C'est très physique. Vous avez travaillé un peu sur cette image ou sur j'ai envie de dire le confort du salarié, c'est pas le bon terme, hein, mais en tout cas la charge ou ce que vous demandez aujourd'hui ?
Moi, j'estime que quand on comprend ce qu'on fait, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire. Si on vient au travail en reculant, malheureusement, le travail ne sera pas fait correctement.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, on essaie de tourner la chose. J'essaie surtout de tourner la chose en expliquant le pourquoi du comment. Et quand on comprend ce qu'on fait, bien bizarrement, on le fait beaucoup mieux et on le fait de façon plus décontractée. Ce qui n'était pas vrai dans les générations passées où on te disait, toi tu charges tel rayon, et si tu as 600 boîtes de conserve à bête, t'enterrais d'en mettre 600, pas 601 et ni 599. Non, là il y a une certaine... Voilà, on essaie de...
D'intéresser
le collaborateur. Après, on met des choses en place.
De l'impliquer,
tout à fait. Mais en même temps, il fait partie de l'entreprise et
l'entreprise
y appartient.
C'est l'avantage, voilà. Tout à fait. Ouais,
et donc, on essaie d'impliquer les équipes. Et qui plus est, par exemple, chez nous, on a 10%. Vous êtes en CDI au magasin avec 3 mois d'ancienneté et vous avez 10% sur vos achats, par exemple. Après, on est ouvert le dimanche matin. 90% du temps, maintenant, on fait appel à des jeunes étudiants. C'est-à-dire qu'il y a quand même nos collaborateurs qui ont le repos du dimanche, qui n'avaient pas forcément avant. On propose...
Et vous faites bosser les étudiants, ça c'est super aussi.
On fait bosser les étudiants, et puis c'est eux qui sont volontaires. On ne va pas les chercher en disant, toi tu travailles. Non, mais
les étudiants cherchent de plus en plus
à travailler. Tout à fait. Le dimanche matin, il y a un petit casse-croûte. Avant que le magasin ouvre, on fait monter tout le monde en salle de réunion, petit casse-croûte. D'ailleurs, changement de mentalité. Avant, il y avait un bout de pâté et de jambon de pays. Aujourd'hui, c'est plutôt croissant et chocolatine. Comme quoi, les mentalités, les générations changent.
Et donc
on propose, c'est pareil, je propose aux équipes, s'ils souhaitent avoir un jour de repos et qu'ils en discutent entre eux, comment le travail doit continuer à se faire, mais comment on pourrait l'instaurer. Il faut que ça vienne d'eux. J'aime pas forcément l'information descendante et plutôt de façon dictature. J'aime bien que ça soit partagé et généralement on va beaucoup plus loin quand c'est partagé.
Est-ce qu'on peut rentrer dans la grande distribution, j'ai envie de dire, à poil, c'est-à-dire sans diplôme, mais avec de la volonté par contre. Un jeune qui veut bosser, un jeune qui cherche à bosser, bon, il n'a pas de diplôme. On peut faire des choses.
Il y a encore un ascenseur social, on fait dans la grande distribution.
Complet, vous en avez un exemple devant vous.
Vous êtes devenu directeur comment ?
Oh là là, j'étais parti pour faire plutôt de l'électrotechnique et qui était l'opposé. Je suis incapable de brancher quoi que ce soit et j'en ai une horreur.
Bonne orientation.
Voilà, très bonne orientation.
Il faut déléguer.
Oui, mais j'ai été des grosses capacités à déléguer là-dessus. Et donc voilà. Et puis j'ai fait un peu de banque, mais je m'ennuyais un peu derrière un guichet. Et j'ai eu l'occasion à l'époque de rentrer dans la grande distribution à 25 heures aux fruits et légumes. Et je m'étais dit au bout de 3 mois, jamais de la vie, je ferai ça toute ma vie, parce que se lever à 4h15, embaucher à 5h, et puis voilà, bon, hein. Au bout de 6 mois, j'étais à 35h, 6 mois après, j'étais chef de rayon, et puis j'ai fait divers postes jusqu'à chef de secteur, et aujourd'hui, depuis 3 ans à Périgueux, en tant que directeur de magasin, donc l'ascenseur social existe complètement, et qui plus est à la Coop Atlantique, où on essaie de repérer nos jeunes avec... de l'envie, du savoir-être. Voilà. La première chose que je regarde, c'est le savoir-être.
En 10 secondes, comme ça, vous avez des formations internes, parce que directeur, je vous écoute, ça veut dire DRH, ça veut dire manager, ça veut dire comptable, ça veut dire gestionnaire, ça veut dire chef d'équipe. On vous forme un peu en interne ?
Tout au long de notre carrière. Tout au long de notre carrière, on est formé, on a des formations obligatoires et après on peut demander certaines formations. On a même, au sein de la Coop Atlantique, on est 3000 collaborateurs, on a un service de formation avec des personnes diplômées et tout au long de l'année, on peut se former.
Fabien Papon, merci beaucoup. Merci pour ce bon moment que vous avez passé avec nous. C'était très enrichissant. On comprend un peu mieux ce que la grande distribution a aujourd'hui, puis ce qu'est bien sûr l'IPERU de Boulazac, cette coopérative différente qui... différenciation et c'est merci encore. Un petit mot de la fin, Stéphane ?
Non, mais c'est toujours intéressant de parler d'un acteur local et de voir que derrière le miroir, en fait, il y a plusieurs métiers, il y a des gens qui s'impliquent, des gens qui constituent une équipe. C'est peut-être la grande différence avec les autres. Et merci beaucoup d'être venu. Merci. Patrice, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci, au revoir.
RLP Business.
Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie, elle exhibe des trésors satinés, dorés à souhait.
RLP
Radio Libre en Périgord.